grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit sur nous. Voilà, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Dans le 18e siècle en Italie, je suis italien donc je parle de l'histoire que je connais, hein. Dans le 18e siècle, il y avait les Prussiens qui sont venus en Italie et ils l'ont occupé. Il y avait les royalistes, les rois, mais comme les Prussiens ils sont venus, mais il y avait toujours ces royalistes. Et il y avait aussi, c'est la même époque, le 18e siècle, il y avait ce grand homme italien, oui, je suis un peu, hein, faucheton, comme on dit, Giuseppe Verdi. Vous connaissez tous, c'est un grand qui a fait le directeur de musique, qui a fait des opéras et tout ça. Et alors, comme il y avait les Prussiens, à un certain moment, les gens ils se sont mis ensemble, ils se sont parlé et ils ont dit, bon, écoutez, puisqu'il y a les Prussiens et on ne peut pas crier « Vive le roi », on va crier « Vive Verdi ». C'est ce qu'il y a dans ce cri, ce que « Viva », bon, tout le monde connaît « Viva », n'est-ce pas? Mais ce mot-là, Verdi, il a été utilisé comme un cryptogramme. C'est-à-dire que chaque première lettre, il correspond à sa vraie signification. Par exemple, là, c'était « Viva Verdi ». Alors, la lettre V et la lettre E, c'était « Viva Verdi, viva Vittorio Emanuele, re, roi d'Italie. » Alors, en criant Verdi, les gens ils disaient « Viva Vittorio Emanuele, roi d'Italie. » Parce que c'était lui, le roi d'Italie. Mais il ne pouvait pas le crier. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Prussiens. On appelle ça un cryptogramme. Et il y a ce cryptogramme, lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis dit, eh bien, celui qui a inventé ça, c'est quelqu'un de fort, de très intelligent. Et vous savez qui c'est qui a inventé ça? C'est un chrétien. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'un chrétien, il lisait la Bible. Et vous savez, lorsque il y a eu cette femme adultère que les pharisiens ils ont ramené à Jésus, et Jésus il a dit que c'est lui qui est sans péché, il tire la première pierre. Jésus il s'est baissé et il a écrit. Et depuis ces jours, qu'est-ce qu'il a écrit? On ne sait pas. Mais depuis ces jours, une fois que le Seigneur il a choisi les disciples, les apôtres, depuis ces jours, il y a eu un cryptogramme qui a été utilisé pour manifester les chrétiens. Quel est ce cryptogramme? C'est les poissons. Vous me direz, mais pourquoi les poissons? Hein? Pourquoi les poissons? Vous en avez vu des poissons, hein? Derrière la voiture, dans le vélo, dans le shirt, je ne sais pas, dans les livres. Pourquoi les poissons? Pourquoi les poissons? J'ai préparé ici pour que vous puissiez les voir. Alors, les poissons, en grec, on les dit ichthus. On ne m'entend pas, hein? Oui. Voilà. Oui. Oui, merci. Voilà. Ictus, c'est en grec. Alors, je vous ai dit, c'est un cryptogramme. Alors, ictus, voilà, le premier, c'est I. Et les chrétiens, encore une fois, ils ont utilisé ces cryptogrammes. Alors, le premier, c'est Jésus. Jésus. Ensuite, ictus, C et H. Christ. Christos. Ensuite, il y a TH. En grec, c'est Théos. Mais ici, c'est Théou. C'est-à-dire, c'est le génitif. Hein? Que c'est Dieu. Et ensuite, il y a U. Uios. C'est Fils. Et ensuite, il y a le S. Et c'est le mot Soter. Et ça veut dire salut. Donc, lorsque il faisait les signes du poisson, il disait quoi, les gens? C'est un signe de reconnaissance. Il disait, Jésus-Christ est le Fils de Dieu Sauveur. Vous voyez pourquoi il criait cela? Pour manifester ce qu'ils désiraient crier, mais ils ne le faisaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Parce que les gens, ils ne voulaient pas. D'ailleurs, avec Pierre, hein, le souverain sacrificateur, il leur a dit, je vous interdis de parler ou de prier dans ce nom-là. Alors, la réponse de Pierre, c'est clair et c'est net, c'est, à qui devons-nous oublier? À toi ou Dieu? Donc ici, les poissons, est-ce que c'est un code secret? Est-ce que c'est un code qui était utilisé et aujourd'hui même par certaines dénominations chrétiennes? Non, les poissons, c'est le signe des rassemblements. Tous ceux qui l'utilisent, ils disent, en montrant ces poissons, qu'ils sont rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Ça vous est arrivé, vous êtes derrière une voiture, vous voyez le poisson, et vous dites, ah tiens, un poisson, celui qui est devant moi est chrétien. Voilà pourquoi on le met un peu partout. Et alors, comme je vous ai dit en français, ictus, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà, maintenant vous savez, lorsque vous voyez un poisson, hein, qu'est-ce que ça signifie? À l'époque, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Parce qu'à l'époque, c'était coûté cher de s'affirmer en tant que chrétien. C'est un peu, on le voit aujourd'hui aussi, dans les pays où la parole de Dieu est proscrite, où il n'y a pas d'église, où l'évangile il n'est pas annoncé. Les gens, hein, ils restent fidèles à toutes ces choses-là. Et vous savez, cela signifiait que les chrétiens, ils désiraient vivre comme Christ il a vécu. On a un peu vu aujourd'hui dans notre étude, hein, pour ceux qui étaient là, que les chrétiens, hein, ils sont en Christ et ils doivent manifester les sentiments qui est en Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre Christ, il y a un changement. Vous savez, il y avait ces deux touristes qui vont à Papouasie, et alors, dans leur tour, dans leur visite, ils arrivent dans une tribu cannibale. Et alors, on les a amenés là, et ils ont regardé, et ils ont vu que c'était des gens bien. Alors, ils ne manifestaient pas ce cannibalisme, n'est-ce pas? Et alors, ils ont été visiter les chefs. Il a dit, mais on nous a dit que vous étiez une tribu de cannibales. Pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Il a dit, messieurs, vous seriez venus ici il y a 5 ans, on vous aurait mangé. Mais là, on ne le fait pas parce qu'on a rencontré Jésus-Christ. Il y a un changement lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. C'est quelque chose de très important. J'ai dit, je suis chrétien. Ça signifie quoi, être chrétien? Est-ce que ça signifie être né dans un pays chrétien? Beaucoup aujourd'hui, es-tu chrétien? Ah oui, je suis chrétien. Est-ce que parce qu'on est né dans un pays chrétien, Est-ce qu'on est membre d'une famille chrétienne? Ah, ma famille est chrétienne. Hein? C'est ce qu'on dit toujours. Hein? Est-ce que parce qu'on a été baptisé? Aujourd'hui, vous savez que dès qu'un enfant il vient, paf, on le baptise. Voilà, et il est automatiquement enfant de Dieu. Est-ce que parce qu'on a fait notre communion ou notre confirmation, ou est-ce que je vais à l'église tous les dimanches et donc je suis chrétien? Est-ce que c'est ça, être chrétien? Beaucoup, encore une fois, ils se déclarent être chrétiens. Mais qu'est-ce que ça signifie être chrétien? Et on trouve la réponse dans Galates. Je vais vous la lire. Vous voulez lire avec moi. Galates 3, 26 à 28. 26 à 28. Voilà ce qu'il dit. Et ça, c'est la définition d'être chrétien. Qu'est-ce que ça signifie être chrétien? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, plus esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Ici, il nous le dit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. C'est se confier en lui. C'est n'avoir que Jésus comme message ou comme messager. C'est n'avoir Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Et ici, il nous le dit, fils de Dieu. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, est-il fils de Dieu? Selon ce verset, non. Est-il quoi alors, celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est? Il est créature de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le créateur. Dieu, il a créé l'univers, les hommes, les anges, c'est le créateur. Mais pour entrer dans la famille de Dieu, être chrétien, il faut qu'on ait notre foi en Jésus-Christ. Pas en il nous est dit d'acte, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre. Il n'y a pas une autre personne que nous pouvons suivre et par lequel on peut devenir chrétien. Il n'y a que Jésus. Jésus. Et lorsqu'on est chrétien, qu'est-ce que c'est qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'Église primitive? Lorsque quelqu'un il a ouvert son cœur à Jésus-Christ, d'Actes 11, il nous le dit. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Lorsqu'on est chrétien, parce qu'on a notre foi en Jésus-Christ, on participe au travail de l'Église dans laquelle on est, on participe aux enseignements, on lit la parole, on prie avec tous nos frères et sœurs, on est là assidus. Pourquoi? Parce que on a vu ce matin encore, nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes mis à part du monde. Là où il y a la joie, la paix et le repos, c'est là où il y a des frères et sœurs en Christ, pas dans le monde. Si on reste dans le monde, il n'y a aucune bénédiction. Aucune bénédiction. Voilà pourquoi ils se réunissaient. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit se tourner vers Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est ça que le monde il ne veut pas. Lorsqu'on lui dit « tu es pécheur », je ne suis pas pécheur, pas plus que Roland, pas plus que lui. J'essaie de vivre ma vie. Voilà ce que la chose difficile à expliquer aux autres, à leur dire qu'ils sont des pécheurs. Ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils se croient des bonnes personnes. Il y avait Rousseau qui l'avait dit, l'homme, il n'est bon. C'est la société qui le rend mauvais. Allez dire ça, Adam et Ève. Est-ce qu'il y avait une société autour d'eux? Il n'y avait personne. C'est du plus profond de notre cœur. Jésus nous dit que c'est le cœur qui est mauvais. C'est le cœur qui est pécheur. Voilà pourquoi, en devenant chrétien, les seigneurs, ils changent notre cœur. Et à cause de cela, il nous fait rentrer dans cette nouvelle alliance. Bon, il y a des chrétiens aujourd'hui qui nous parlent. Oui, moi j'ai fait avec les seigneurs la nouvelle alliance avec les seigneurs. L'alliance, la nouvelle alliance, c'est avec moi que le Seigneur l'a fait. Ces personnes-là, ils ont été mal enseignés et eux-mêmes, ils lisent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Parce que Jérémie, il est clair, il est net. Et il nous dit de la part de Dieu, « Je vais faire avec vous, peuple d'Israël et Judas, je vais établir avec vous une nouvelle alliance, pas comme celle que j'ai établie avec vos pères, que vous n'avez pas observée, mais je vais faire avec vous une nouvelle alliance. Avec vous, c'est avec Israël et avec Judas, pas avec nous. Et quelle est cette nouvelle alliance? Il nous le dit clair et net, il a dit, « Je vais changer votre cœur et je vais mettre en vous un esprit nouveau. » Mais ça, il a dit, « Je vais le faire avec le peuple d'Israël, avec Judas. » Nous, en tant que chrétiens, nous y rentrons dedans. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a fait déjà en nous cette nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance en elle-même, c'est quelque chose qui va se manifester dans le temps. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, après s'être repenti, après avoir laissé de côté nos péchés et après avoir fixé nos yeux sur Jésus-Christ, le Seigneur, il change notre cœur. Et il met en nous un esprit nouveau. Quel est cet esprit nouveau? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi nouveau? Parce que si on n'a pas le Seigneur Jésus, on n'a pas l'Esprit Saint. On n'a pas l'Esprit de Dieu. On l'a lu dans Galates. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on est enfant de Dieu. Et Dieu, il nous donne son Esprit pour que nous puissions marcher avec lui. C'est ça la nouvelle alliance. Et c'est ça que le Seigneur, il désire faire avec Israël et Judas. Mais on est dans la dispensation de la grâce. Vous savez qu'Israël, lorsqu'il a cloué le Seigneur Jésus à la croix, il a été mis de côté. Parce qu'Israël, il ne voulait pas de son Messie. Donc le Seigneur, il a envoyé les disciples, il a dit, allez partout dans le monde, il a envoyé dans les nations. La bonne nouvelle a été prêchée et tous ceux qui l'ont acceptée, ils sont devenus l'Église. Ils ont été dans toutes les nations. Ici, il y a de différentes nations, n'est-ce pas? Mais encore une fois, comme on a lu dans Galates, il n'y a ni homme, ni femme, ni homme libre ou des esclaves. On est tous un en Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur il a accompli ce grand miracle. Il a mis en nous ce cœur nouveau et cet esprit nouveau. C'est ça la nouvelle alliance. Et lorsqu'on prend la Sainte Cène, le Seigneur il nous le dit lorsqu'il parle du sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance. Parce que tout il doit être fait par et à travers le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce que lorsqu'on entend parler du sang, Voilà, on commence à voir. De... Alors, ils ont traduit des Bibles où au lieu du sang, on est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Ils ont mis par la mort de Jésus-Christ. Sans effusion de sang, pas de pardon. Pas de pardon. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. Pas la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ ne me purifie pas. Mais le sang, oui. Il nous lave, il nous purifie. Et c'est là, être chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui a ouvert le cœur à Jésus-Christ, qui a remis à ses pieds toute sa vie passée, tous ses péchés, qui les a confessés et qui a dit à Seigneur Jésus, voilà Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je sais que je suis pécheur et je me tourne vers toi pour que tu puisses m'accorder ce salut pour lequel tu es venu. Parce que vous savez, il nous est dit un verset dans l'Évangile, le Fils de l'homme est venu pour sauver. Pour sauver. Il y a un moment qui viendra pour juger. Mais ce moment-là, ça va être par la suite. Mais aujourd'hui, il est là pour sauver. Un jour, il va vous juger. Ceux qui n'ont pas ce cœur changé et qui n'ont pas cet esprit nouveau dans leur cœur. Voilà qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Et pas parce qu'on va dans une église, on est chrétien. On est justement dans Jude. On est en train d'étudier que Jude, il avait écrit à une église. À une église et à nous aussi. Et il leur dit, dans le verset 3, il a dit, « J'aurais voulu vous parler du salut, du merveilleux salut qu'on a en Jésus-Christ. Mais je me suis senti obligé de faire quoi ? De vous parler d'autre chose qui est plus important. » Et il dit, parce que parmi vous, il s'est glissé des gens qui déforment les enseignements de l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se passe. Et c'est ce qu'on a appris dans cet épisode, que j'ai appris, parce que jamais j'ai pu déduire ça. Il ne dit pas au monde, il y a parmi vous des gens qui... Non, il dit ça à une église. C'est-à-dire que dans nos églises, il y a des gens qui sont parmi nous, mais ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Et quelle est leur tâche? C'est de nous faire dévier. Mais un chrétien, en vrai, c'est celui qui a ouvert son cœur à Jésus-Christ, qui lui fait confiance, qui le regarde en continuation, qui se laisse diriger par lui. Et pas tous les gens qui sont tous, même dans nos propres églises, des fois on trouve de l'opposition dans notre propre église. Et Paul il nous le dit, ne regardez pas votre propre intérêt. Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur, il ne regarde pas les intérêts de nos frères et sœurs. Il regarde ses propres intérêts. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ce moi à l'intérieur de lui-même. Parce que son cœur, il n'a pas été changé. Le moi, c'est quelque chose qui... C'est la chose qui a fait tomber Adam et Ève. C'est la chose qui a fait tomber Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez toutes les choses que Dieu connaît. Votre intelligence, elle va s'ouvrir. Voilà. Aujourd'hui, il y a des savants, des gens qui ont fait des grandes études, qui vous disent des choses, et encore un peu, ils veulent vous faire changer des pensées. Par exemple, les évolutionnistes. Ils veulent nous faire croire que nous descendons d'un singe. Mais c'est vrai que des fois on l'utilise, cette expression. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis étudiant à l'université. Mais dans quelle branche? Pourquoi on dit dans quelle branche? Je l'ai entendu. lorsqu'on allait témoigner à la cité universitaire à Paris. Dans quelle branche? Comment dans quelle branche? Je ne suis pas un singe. J'ai été créé à l'image de Dieu. Et nous avons été prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Je ne suis pas. Je ne descends pas d'un singe. Et les évolutionnistes disent qu'il y a une évolution. Voilà. Il y avait des singes et ensuite sont devenus des hommes. Mais il n'y a pas une vraie explication. On peut se demander pourquoi cette évolution, ça ne fonctionne plus. Pourquoi on s'arrête en tant qu'homme? Ça s'est arrêté. Voilà, c'est ça. Nous, nous sommes des créationnistes. C'est-à-dire que nous croyons que c'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est beaucoup plus plausible que de se dire qu'on descend des animaux ou des poissons. Bien sûr, on ne comprend pas. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, hein, nous croyons que Dieu a créé toutes choses par la foi. Si nous n'avons pas cette foi, en nous-mêmes, on peut se dire, voilà, que la lumière soit. Mais comment est-ce possible? Mais Dieu, il nous le dit. Et nous croyons Dieu. Et c'est la seule explication. Les autres disent que, voilà, la Terre est apparue comme ça. Un jour, il y a eu un Big Bang, je ne sais pas quoi, il y a eu une explosion, et tout est sorti comme ça. Moi, je sais que de rien, il ne sort rien. Il y a cette histoire, je vous l'ai déjà racontée. Il y avait quelqu'un, c'est une histoire, hein, il dit à Dieu, « Je vais faire tout ce que tu fais. Je suis un être intelligent et je sais faire tout ce que tu veux. Tout ce que toi tu fais. » Et Dieu lui a dit, « Vas-y, commence. Fais une chaise. Commence. » Et il a dit, « Oui, mais il me faut du bois. » Dieu lui dit, « Que la chaise soit. » Elle est sortie. Pourquoi? Parce que tous ces gens, ils veulent avoir quelque chose pour faire. Dieu n'a pas besoin de quelque chose. Dieu, il dit, et la chose se réalise. C'est ça la beauté de notre Dieu. Et c'est ça être chrétien. Faire confiance à ce grand Dieu qui est constamment là, qui nous pardonne constamment nos transgressions. Et si nous sommes derrière lui, c'est parce que nous savons qu'il est toujours là. Et vous savez, il n'y a qu'une seule solution à cet état de péché dans lequel vit le monde, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. Le plus grand verset que tout le monde il connaît, c'est Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset fétiche des chrétiens. Ah, bravo, voilà. Mais il y en a tant d'autres. Par exemple, le 36. 3, 36, il dit quoi? Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dans l'autre, il est dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais ici, il dit, c'est lui qui croit au Fils. Croit, la foi. La foi. C'est lui qui croit au Fils à la vie. Pas il aura, mais il a. Quelqu'un il vous a demandé un jour, si tu meurs maintenant, où est-ce que tu vas? Vous lui répondez quoi en tant que chrétien? Au paradis. Oh, mais t'es pas un peu... de dire ces choses-là, hein? Pourquoi tu vas où, toi? Ah, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Ah, mais moi, je sais. C'est ça la différence qu'il y a. Parce que la Bible, il nous le dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Lorsque quelqu'un me dit, s'il t'arrive quelque chose, où est-ce que tu vas? Si tu meurs, où est-ce que tu vas? Mais je vais au ciel. Mais comment tu fais le savoir? Dieu me l'a dit. Il me le répète. Et je le crois. C'est ça, être chrétien. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Pas seulement il ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà pourquoi on dit que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ils sont morts. Ils sont jugés, ils sont condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les fils. C'est tout simple. C'est tout simple. Il n'y a que lui qui peut nous mettre à l'abri de la colère. Parce qu'il nous le dit lui-même dans Jean 5. Il nous le dit qu'il n'y a pas de jugement. Et pourtant, le salaire du péché, c'est la mort. Mais si on croit dans le Fils, il n'y a pas de jugement. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la mort à la vie. J'ai eu ici quelqu'un un jour, lorsque j'ai dit que ceux qui sont dehors, ceux qui n'ont pas Christ, ils sont morts. Il était là, après le culte, il est venu, il m'a dit, « Pourquoi vous dites que je suis mort, je n'ai pas Christ ?»« Parce que tu es mort, tu n'as pas Christ. » C'est ce qu'il dit Dieu dans sa parole. Et Paul, il nous le dit, hein, en parlant de veuves, il a dit, elles sont vivantes, quoique mortes. Et pourtant, elles étaient vivantes. Mais lui, il disait, quoique mortes. C'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Un chrétien, c'est celui qui a la vie. C'est celui qui a la vie que Jésus-Christ, il donne. C'est une vie, comme j'ai dit dans la prédication, hein, ce n'est pas une vie bios, la vie que nous vivons. Mais c'est la vie Zoé, c'est la vie éternelle. C'est cette vie-là que Dieu nous donne. Une vie qui ne périt pas. Pas une vie donnée pour un certain temps, mais c'est une vie éternelle. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est êtes-vous sous la colère de Dieu ou vous avez la vie en Jésus-Christ? Ben, c'est ça. Vous savez, notre vie, c'est un choix. Même ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus, la vie, c'est un choix. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ou ça? Ça ou ça? Et pour la vie ou la mort, c'est un choix aussi. Le Seigneur, il nous dit dans Deutéronome, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il dit, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu, il nous laisse libres de choisir. Il ne nous oblige pas. Imaginez-vous un Dieu qui nous oblige à choisir Jésus-Christ. Il n'y a plus de choix là. Nous sommes venus au monde pour un choix. Chacun, il doit choisir pour ou contre Jésus, pour ou contre Dieu. Un peu comme il avait fait Moïse lorsqu'il a jeté les tables de la loi sur les veaux d'or qu'ils avaient construits, et il a dit, à moi tous ceux qui sont à l'éternel. Et il y a eu des gens qui se sont tournés vers Moïse, les autres qui sont restés à jouir de cette vie, de cette débauche dans laquelle ils s'étaient vautrés, voilà, ils ont été engloutis par un tremblement de terre. C'est ça le choix que nous avons. Comme on a fêté hier, j'ai vu à la télé, hein, ils ont fêté, la mort de Shakespeare, comment on l'appelle Shakespeare, excusez mon anglais, mais vous savez qui c'est. Hein. Il avait eu cette grande phrase, n'est-ce pas? To be or not to be? Hein, this is the question, je ne sais pas. Hein. Vous savez, le problème aujourd'hui, la question d'aujourd'hui, c'est la même chose, hein. Être ou ne pas être chrétien. Mais ce n'est pas seulement une question ou un problème, mais ça dépend de notre vie éternelle. Êtes-vous ou non chrétien? Voilà ce à quoi vous devez répondre. Et décidez-vous de répondre, car la vie est courte. Vous savez, l'autre jour, il est mort, ce grand C'est pour le monde, ces grands chanteurs, prince, je ne sais pas comment. Hein. Et il avait ses idoles, il a donné un concert, il a dit, ne priez pas pour moi, j'ai encore longues années devant moi. Le lendemain, il est décédé. La Bible nous dit que notre vie, c'est comme une nuée, un coup de vent. Et la vie passe. Je l'ai dit ce matin, un chrétien, c'est celui qui manifeste les sentiments de Jésus-Christ. C'est celui qui prêche le message, la bonne nouvelle. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, et pas autre chose. Des fois, on prêche un évangile, mais c'est un évangile modifié. Il y avait les chanteurs, comment il s'appelle? Balavoine. Il a écrit dans une chanson, je l'ai marqué là, leur évangile, où je l'ai mis, il est là. Oui, c'est ça, oui, c'est lui que. Leur évangile a fait de moi un non-croyant. Il avait mis ça dans ça. Leur évangile à qui? À des gens qui ne manifestaient pas les mêmes sentiments de Jésus-Christ. Il a écouté, et à force d'écouter toutes les choses qu'ils disent, sa foi est partie. Son cœur, il s'est fermé. Donc, ne fermons pas notre cœur. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui, le jour du salut. Amen. On va terminer par la prière.